13h30 sur France Inter, la marche de l'histoire avec Jean Lebrun. Bonjour Jean.
Bonjour Claire.
Quel est le sujet du jour?
Un petit peu d'histoire de la police, cette circonstance, non?
Je te dis, la police, j'aime bien, toi. Je te dis, même la gendarmerie, toi, j'adore, toi. Bon, j'ai peut-être une légère préférence pour les CRS.
La police, un art et un métier.
La marche de l'histoire.
Sur tout le trajet, on a subi pierres, insultes, sans arrêt. À chaque intersection de rue, forcément, on est obligé de courir partout pour pas qu'ils aillent casser des vitrines ou quoi que ce soit. Et le problème, c'est que quand on est dos, on peut pas se protéger sans arrêt, même avec les boucliers. À un moment donné, on a des espaces libres. Et là, ils en profitent dans les groupes, ils se cachent et il y en a un ou deux qui ramassent des pierres. On n'est pas rentré dans la police pour prendre des parpaings et des cocktails Molotov et tout ça. On est là pour protéger la population. Forcément, on est des hommes, on n'est pas des robots en CRS, on est père de famille, ça nous touche.
C'est un principe démocratique, l'usage légitime de la force est délégué à la police. Comme elle tient sa fonction d'un pouvoir issu de l'élection, la population peut estimer qu'elle est à son service. Le métier ainsi bénéficie depuis des lustres d'un socle de soutien de l'ordre des deux tiers des Français, lequel s'est élargi après janvier et novembre 2015. Sondage Odoxa Le Parisien de ce jour, 91% de nos concitoyens disent comprendre la fatigue présente des policiers sollicités sur tous les fronts. Ce qui s'exprime dans les sondages ne se vérifie pourtant pas sur tous les terrains. On sait l'impopularité accumulée par la police dans les quartiers dits difficiles. Depuis des lustres aussi, on vérifie à chaque manifestation qu'elle déclenche l'hostilité d'irréductibles qui peuvent même s'attaquer dorénavant au service d'ordre des syndicats. Le socle de soutien a beau être devenu plus solide, l'exercice de la répression demande constamment de l'adresse. Le drame est toujours proche et inscrit dans les mémoires. Si Nantes, par exemple, est particulièrement inflammable, c'est qu'on hésiterait à y déclarer les manifestations car on se souvient de la mort de l'ouvrier Rigoulet en 1953. La police est un métier de gens impavides, mais, disait un ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, elle reste un art.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Avec Christian Chevandier, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Vous êtes un praticien infatigable de l'histoire sociale, policier dans la ville, un gros folio de 2012. Vous prêtez beaucoup attention aux récits de vie.
Les récits de vie dans la police, ça existe d'ailleurs depuis longtemps, depuis le très inventif préfet Lépine.
Oui, depuis la fin du 19e siècle, les policiers rédigeaient une autobiographie à la fin de leur formation. En fait, c'était une autobiographie qui servait surtout à savoir s'ils savaient rédiger, puisque c'était des gens qui étaient susceptibles d'écrire des rapports. Alors après, pour l'historien, ces autobiographies, c'est un trésor.
Vous remarquerez quand même que les autobiographies de criminels ont précédé les autobiographies de policiers.
Elles étaient suscitées par un psychiatre, c'était autre chose.
Le préfet Lépine avait des principes quant au recrutement. On va parler du recrutement et de la formation. Il fallait une moustache.
Oui, la moustache,
vous l'avez, vous.
Était indispensable. Je l'ai, ce qui m'a permis parfois, dans certaines circonstances, d'être pris pour un policier. J'ai la moustache, les gardiens de la paix avaient la moustache.
Et quand on n'avait pas la moustache et qu'on se présentait devant le préfet Lépine.
Quand on n'avait pas la moustache, qu'on se présentait devant le préfet Lépine, c'était catastrophique. Puisqu'il en a fait d'ailleurs la remarque à un postulant, en lui disant, écoutez, c'est très bien, vous seriez un gardien de la paix idéal, mais vous n'avez pas la moustache.
Alors le type, il a répondu.
Il a répondu, ce n'est pas la moustache qui fait l'homme.
Et Lépine l'a repêché.
Ben oui, puisqu'il avait de la réplique, à défaut d'avoir de la moustache.
Bon, alors vous avez de la moustache, vous avez de la réplique, on est bon. Vous aimez utiliser le cinéma, souvent vous citez des films dans Policiers dans la ville. Adieu Poulet, Granier de fer. Poulet d'ailleurs. Cogne, ça n'existe plus.
Alors Cogne, c'était plutôt pour les gendarmes.
Comme Pandore.
Comme Pandore. Ouais. Poulet, on l'utilise pas mal. Poulet, cela vient du marché au poulet qui était sur l'île de la Cité, à côté de la préfecture de police. Ouais.
Lino Ventura, Patrick Devers, ils ont de la réplique.
On est les rois, nous. Seuls. Libres. C'est nous les plus forts.
Je voulais m'engager. Être utile aux autres. J'ai des copains qui sont intéressés.
J'ai déjà un copain qui est parti en gendarmerie. Là.
On a toujours cette peur en nous, donc j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont participer et faire ce travail des policiers volontaires.
Pourquoi que t'es rentré dans la police, toi, Lefebvre ?
Parce que j'étais feignant, parce que j'avais aucune capacité. Et puis que là...
Ouais, c'est pareil. J'ai été flic 24 heures sur 24 pendant 30 ans et... Je sais pas non plus pourquoi, tu vois.
Vous vous rendez compte, la femme de flic qui nous attend à la maison avec un haricot de mouton.
J'aime bien ça, moi, le haricot de mouton.
La malice de notre réalisateur Stéphane Ronxin a glissé dans cet extrait d'Adieu Poulet quelques morceaux choisis de la campagne de recrutement organisée par monsieur Cazeneuve, où on a l'impression, à l'entendre, que la police est une vocation pour les jeunes gens, tandis que vous, vous insistez, à la lumière de votre expérience et des autobiographies de policiers que vous avez lues ou constituées, sur le fait que ce sont des hommes faits qui deviennent policiers dans l'histoire.
Alors, ce sont des hommes faits qui deviennent policiers dans l'entre-deux-guerres, des gens qui avaient à peu près 25 ans. Aujourd'hui, on peut aussi rentrer dans la police à 25 ans avec un certain nombre de diplômes. Sauf que dans l'entre-deux-guerres, quand on avait 25 ans, on avait pu travailler peut-être la moitié de sa vie. Hein. Des gens étaient déjà à l'usine à 13 ans et puis tout à fait illégalement dans les champs dès 9 ans. Aujourd'hui, eh bien, on entre dans la vie active beaucoup plus tard.
Notre femme nous attend avec un haricot de mouton. Ça fait très Maigret.
Ah oui.
Comment il est devenu commissaire Maigret ?
Maigret est devenu commissaire. Alors lui avait la vocation. Et il est devenu commissaire en passant des examens, en passant des concours et en étant entré au niveau le plus bas de la police comme gardien de la paix. Il était gardien cycliste.
Oui, mais maintenant, ça devient difficile parce que les inspecteurs ont une formation particulière et les commissaires, depuis 1941, l'école de Saint-Cyr au Mont-d'Or est alors fondée, ont une formation particulière aussi.
Alors, tous ont une formation particulière. Les inspecteurs, enfin il n'y a plus d'inspecteurs depuis pratiquement deux décennies.
Hein, alors il faut dire quoi, les officiers ?
Les officiers. Donc les officiers ont une formation spécifique, les commissaires aussi. Il y a cependant des glissements d'un corps à l'autre. Il est devenu rarissime. Je pense à un seul exemple, et il a terminé préfet, il est à la retraite maintenant, qui était...
Je ne vais pas pouvoir vous aider, je ne savais oui, même pas qu'un inspecteur était devenu un officier.
Il a commencé comme l'ancien préfet de Seine-Saint-Denis.
Ah oui, oui.
A commencé comme gardien de la paix à Paris. Et il était à
nommé
Paris
préfet
sur
de Seine-Saint-Denis
les barricades.
Par Nicolas Sarkozy et tout le monde en Seine-Saint-Denis, enfin jusqu'aux communistes, oui. A considéré qu'il faisait merveille. Mais on retrouvera son nom, on l'a déjà tressé, une couronne de laurier sur sa tête. Élévation sensible, quel que soit le niveau. Il n'y a plus que les auxiliaires de police qui forment pas encore un corps spécifique qui soit recruté souvent en dessous du bac.
Alors oui, ils sont aujourd'hui les policiers, enfin les gardiens de la paix doivent être bacheliers hein, pour passer le concours, sauf s'ils ont été auparavant justement dans ce corps provisoire des auxiliaires qui doit être un vivier. On les appelle les adjoints de sécurité. Et en effet, on peut, sans bac, devenir gardien de la paix. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça s'est passé sur un temps long. Hein. Avant 1914, les policiers avaient très rarement titulaires du certificat d'études primaires. La moitié des gardiens de la paix parisien des années 1940 avait le certificat d'études primaires. Et ensuite, bien sûr, ils ont été titulaires de plus en plus du brevet. Hein, je vous dis, aujourd'hui, le baccalauréat est exigé. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que, vu la durée de carrière, il y a des groupes qui ont un autre rapport, justement, au diplôme, à l'éducation. En 82, c'est très intéressant, parce qu'en 82, 2% des gardiens de la paix étaient bacheliers. Hein. Et la même année 1982, 17% des candidats l'étaient.
Donc là, on dites-moi, vu les avantages comparatifs des deux métiers, on ne va pas s'étonner qu'il y ait des voyous, mais des policiers, si. Gardien de la paix débutant, 1400 net. Dernier échelon, 2005 net. Le major au-dessus du brigadier chef finit au mieux à 3003. Enfin, vous me direz que c'est les salaires du prof du secondaire.
Oui, voilà, c'est hein? Ce sont les salaires de la fonction publique. Oui, en termes de revenus, ils sont moins avantagés que les voyous. En termes d'espérance de vie...
Bon, je vois que vous avez de nouveau la réplique. Christian Chevandier. Poulet, oui. Dindon, pigeon, non. Alors, c'est un métier extrêmement syndicalisé. 70% de syndicalisés. Et alors, dans un syndicalisme assez illisible, un paysage extrêmement changeant, dont on peut dire quand même qu'il est dominé par le corporatisme. L'adhésion est commandée par des motifs d'intérêt personnel évidents, les syndicats sont efficaces, et par l'autonomie par rapport aux grandes centrales syndicales.
Alors, l'autonomie par rapport aux grandes centrales syndicales, depuis la grande scission au sein du mouvement syndical en 1947, autrement, auparavant, il y avait de très nombreux policiers qui étaient syndiqués à la CGT. Hein. En juin 1946, donc avant la scission, ils étaient 80 000 à être à la CGT.
Alors, pas de droit de grève. Cependant, quand même, une expérience de la grève. Il vous est arrivé de voir des policiers dire aux grévistes qui étaient en face d'eux, enfin, à votre place, 2 heures, c'est pas sérieux. Une journée, ça doit pas être assez. Reconduisez.
C'est ce que j'ai trouvé dans les archives. Et pour faire plaisir au ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, je vais aller chez lui. À Cherbourg, en 1945, lors d'une grève interprofessionnelle, d'une grève de deux heures qui a été appelée par l'ensemble des organisations syndicales, enfin, surtout par la CGT, qui était presque la seule à l'époque. Et j'ai trouvé un rapport des renseignements généraux d'un policier qui était dans l'Assemblée générale de policiers. Alors, je ne sais pas en tant que quoi il y était, mais en tout cas, je sais qu'il a fait son rapport. Et il reprend un des arguments, il développe un des arguments de ces policiers qui disaient, mais bon, on va faire cette grève de 2 heures parce qu'on est solidaire des autres travailleurs, mais on sait bien que ça sert à rien une grève
c'est
de 2 heures.
C'est pas sérieux. Mais l'ancien élu de Cherbourg, qui est Bernard Cazeneuve, il lui arrive de dire, il faut que le public sache que les policiers sont des travailleurs. Le syndicalisme est si puissant que quand un policier est condamné, a fortiori quand un policier est tué, les syndicats se lèvent comme un seul homme. En 1983, le ministre de l'Intérieur était Defferre et le garde des Sceaux Robert Badinter. 2 policiers sont tués par des militants d'Action Directe que le gouvernement de gauche avait, Action Directe en tant qu'organisation et tous ses membres, amnistié. Réaction, nous sommes d'abord dans la cour de la préfecture de police pour les obsèques des 2 policiers.
Il est 9h15 ce matin, beaucoup sont venus rendre un dernier hommage à leurs 2 camarades. La cour de la préfecture de police est pleine à craquer. On sent sur certains visages la colère, une colère contenue. Dans son allocution, Joseph Franceschi rend hommage aux 2 policiers.
Ces 2 morts de policiers sont révoltantes. Nous n'avons jamais toléré et nous ne tolérerons jamais ces meurtres de policiers. Nous veillons de très près à ce que les coupables soient recherchés sans relâche. Et châtier.
Levé des corps, balai des voitures, puis Gaston Defferre et Joseph Franceschi quittent la cour de la préfecture. Quelques sifflets dans la foule, la rumeur s'amplifie. Au concert démission, des sifflets, un slogan.
Démission,
le mot est scandé par plusieurs centaines de policiers. Il est 10h30, aux abords du marché aux fleurs, on se regroupe et quelques 1500 policiers passent le pont Neuf. Le cortège emprunte alors la rue de Rivoli vers le ministère de la Justice, place Vendôme. Au cri de Badinter au trou, Defferre c'est foutu, la police est dans la rue.
Badinter au trou!
Badinter au trou! Vers 11h30, les policiers arrivent face au ministère de la Justice, gardé par un cordon de CRS. Certains policiers embrassent les CRS, les appelant à se joindre à eux. Les gendarmes mobiles enlèvent leur képi en signe de solidarité avec les manifestants. Pour Rémi Albach, secrétaire général du SIPN, proche de l'opposition, cette manifestation aussi spontanée est la preuve d'un ras-le-bol quasi général dans la police. Il est midi moins le quart, les manifestants se dispersent. Nous avons été calmes cette fois-ci, dit l'un d'eux, la prochaine fois nous le serons moins.
C'est la première habileté pour un gouvernement de gauche, c'est se faire respecter des policiers. Il faut quand même mettre ça au crédit de François Hollande. Ces deux ministres de l'Intérieur successifs sont plus populaires que ne l'était Gaston Defferre en 1983. Mmh. Gaston Defferre qui avait tellement à faire avec tant d'autres sujets que celui de la police.
Notamment la décentralisation. En fait, ce type de manifestation est plus répandu qu'on pourrait le croire. Ce qui déclenche une telle manifestation, c'est toujours le mort, ou en fait la mort d'un policier qui est tué par quelqu'un qui venait d'être arrêté et qui a été libéré. D'où l'hostilité assez classique au garde des Sceaux et qui renvoie aussi à l'hostilité à la magistrature, mais qu'on peut voir sur un temps long, en fait, depuis la fin du... On a des textes de la fin du 19e siècle où elle est mise en évidence.
Les CRS sont beaucoup plus récents. On va vous faire entendre une chanson extraite du film « Moi, il y en a vouloir des sous » de Jean Yanne. Depuis le début de la semaine, à la marge de l'histoire, on parle beaucoup de Jean Yanne et après l'émission spéciale de lundi, on en avait encore sous la pédale.
Quand bien le printemps sur les routes, entend les week-ends meurtriers, tous ces laissés sans aucun doute, les CRS, on les sauvés. Alléluia, alléluia, répondons autant que nous sommes, nous devons saluer les hommes qui veillent à nos sécurités. De sécurité. Vive la compagnie républicaine de sécurité. Vive la compagnie républicaine de sécurité.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun. Sur France Inter.
Les policiers dans la ville, c'est le titre d'un livre de Christian Chevandier qui est notre invité aujourd'hui. Les policiers en mission de maintien de l'ordre, ainsi les CRS. Alors comment dater la naissance des CRS? Moi je dis 47 parce que c'est le moment où ils sont vraiment entre les mains du pouvoir républicain. Mais vous allez me dire que les CRS ont existé peut-être davantage autonomes. Alors, après la libération.
Les CRS, en fait, le créateur des CRS, c'est Raymond Houbraque, qui a créé en 1944, en août 1944, en Provence, les forces républicaines de sécurité. Alors,
il était commissaire de la République.
Il était commissaire de la République, installé par
le gouvernement de la libération.
Voilà, le gouvernement provisoire. Et il a donc créé ces forces républicaines de sécurité pour y intégrer notamment des résistants. Alors, à la fois des résistants et il y a aussi versé un certain nombre de policiers, alors ceux qui n'étaient pas soupçonnés de collaboration et qui avaient fait partie auparavant des GMR, groupes mobiles de réserve. C'est la première force mobile de maintien de l'ordre dépendant du ministère de l'Intérieur. Il y avait déjà les gardes mobiles qui sont devenus les gendarmes mobiles, qui existaient depuis les années 20.
Oui, mais c'est bien ce que je vous disais. Il y avait des communistes parmi les premiers CRS. Ils ne deviennent sûrs qu'en 1947.
Alors oui, il y avait des communistes, mais pas tous. J'ai un ami qui était un des dirigeants des maquis du Luberon, un vieux communiste comme on n'en fait plus, auquel justement on avait proposé de diriger une CRS. Et quand il m'avait expliqué ça, il m'avait dit « J'ai fait beaucoup de choses pour le parti, mais ça je n'ai pas pu. »
Dis-toi, puisqu'on fait de la sémantique, le mot « casseur ».
Alors, le mot casseur, moi, je le vois apparaître, je le vois en tout cas bien au début des années 70, avec notamment une loi anti-casseur. Cela dit, c'est vrai que ça renvoie aussi aux violences contre les biens qui étaient mises en avant en 1968, notamment les voitures brûlées.
Parce que vous qui allez beaucoup place de la République, vous avez noté qu'il y a une commission Palestine, une commission France-Afrique, une commission Sérénité, il y a aussi une commission sémantique, et la commission sémantique a décrété qu'il fallait pas employer le mot casseur. Vous datez de 1979 et de la marche des sidérurgistes, la présence quasi systématique, à partir de ce moment-là, d'éléments, alors comment je vais dire, perturbateurs, incontrôlés.
Disons que c'est au point d'une présence qui a pu faire dégénérer une manifestation. Ensuite, cela dit, on se trouvait quand même dans la continuité des années 70. Bon, je vais souvent place de la République, mais les années 70, j'ai bien connu. Hein, j'ai vécu intensément ces années-là, jeunesse qui était agitée. Et c'est vrai que quand je parle de coups de matraque, je sais de quoi il s'agit. J'ai eu ma dose à l'époque. Donc, je pense qu'on est là vraiment, enfin, on était à ce moment-là, plutôt, à la fin de la période des années 70, donc l'après 68, et cela a été renouvelé avec un changement de tactique de la part de la police dans le maintien de l'ordre après la mort de Malik Oussekine.
Alors parlons de cela, de ce changement de tactique. Oui, monsieur le prince, Malik Oussekine meurt sous les coups de policiers d'une brigade particulière et le préfet de police de l'époque, Paolini, et le ministre de l'Intérieur, c'était Charles Pasqua, que de Corse décide d'éviter le contact direct.
Certaines personnes ont dit qu'entre les policiers et ceux qui cassaient les vitrines ou les voitures, il n'y avait qu'une très courte distance, que les policiers auraient pu facilement intervenir.
Non, c'est un reproche qu'on fait à la police quand elle intervient, qu'elle court après les casseurs. On lui reproche de l'avoir fait, et quand elle ne le fait pas, on lui reproche de ne pas l'avoir fait. En fait, ce qui nous guide, c'est de n'intervenir qu'à bon escient sur une foule compacte, comme elle l'est au quartier latin, et de choisir le moment où notre intervention fait courir le moins de risques à tous ceux qui sont là de bonne foi, à l'immense majorité des étudiants et des lycéens qui manifestaient leur colère, leur souhait de voir les choses changer. Et alors nous avons différé l'intervention jusqu'au moment où elle pouvait se faire dans les meilleures conditions possibles.
Différer l'intervention. Vous notez d'ailleurs, vous avez reçu beaucoup de coups de matraque sur la moustache, mais vous notez d'ailleurs, Christian Chevandier, une baisse tendancielle de la violence.
Alors, je pense que ça va être difficilement audible à la fois par les policiers qui reçoivent des projectiles et par les personnes qui reçoivent des coups de matraque. Mais c'est vrai que si on regarde s'intéresse à ce qui se passe sur un temps long, on s'aperçoit en effet qu'il y a un apaisement, une violence qui ne cesse d'être moindre, mais qui est d'autant plus rare que lorsqu'il y en a un petit peu, cela nous choque. Mais somme toute, ça renvoie. Enfin, le phénomène n'est pas simplement français, hein, il est européen. Il y a un livre bouleversant qui est paru il y a quelques années d'un réfugié afghan, Mortaza Jami, qui s'appelle Oui.
Alors, le titre est super. Qui était, en Europe, je savais qu'on ne tue pas, qu'on ne tire pas.
On ne tire pas sur les gens. Oui, en Europe, on ne tire pas sur les gens. Il y a beaucoup de pays où on tire sur les gens. Moi, j'ai les seules expériences que j'ai où j'ai vu de la une peur physique parmi des personnes qui étaient confrontées à la police, c'était en dehors de l'Europe.
Il y a eu une adaptation des techniques au temps de votre folle jeunesse, barrage, ferme en ligne, à distance. Et puis maintenant, il y a plus d'adaptabilité. Vous citez Jean-Pierre Chevènement, la police est un art. Tout est dans l'adresse.
Alors, la police est un art qui évolue. Et ça, c'est aussi c'est une des raisons pour lesquelles on a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe. Il faudra avoir un petit peu de recul pour vraiment voir ce qui s'est passé. L'art en question évolue chaque jour, hein, chaque soir de manifestation. Il y a une séance de débriefing à la préfecture de police ou le lendemain matin, où justement tout est analysé et de laquelle dépend la de laquelle dépend la tactique de la manifestation suivante.
Alors, pourvu que la réunion de ce soir, après le face-à-face alliance soutenue par EFO et Nuit de Boutistes, place de la République, n'est pas mal tourlée. Place de la République, on est beaucoup moins intolérant que cours de la Sorbonne en 1968. Au temps de votre folle jeunesse, on n'aurait pas été interviewé alors qu'on était militant. 68ard, une policière, comme le fait Radio Debout, la radio de Nuit Debout.
Dans la police, on est travailleurs comme les autres. On est rentré là pour servir nos concitoyens, pour leur permettre de vivre en paix et d'être sécure. Et puis la deuxième phase que je voulais aborder, c'était donc le problème des violences policières. Je pense qu'il y a plusieurs solutions, petites astuces peut-être pour désamorcer des conflits et des situations de tendues. Déjà, n'insultez pas les gardiens de la paix qui sont derrière les boucliers. C'est pire que tout. Ces gars-là, ils sont plantés là depuis des heures, debout, avec un équipement extrêmement lourd. Et au-delà de ça, quand on se retrouve vraiment face à eux, juste se présenter, dire « Bonjour, je m'appelle un tel, j'ai deux enfants », ça humanise le débat, ça permet à la personne qui est en face de vous de se rendre compte que vous, si vous êtes un humain, vous pouvez être son frère, sa sœur, son cousin, n'importe qui.
Et vous pensez qu'il y a beaucoup de gardiens de la paix ou de forces de l'ordre qui viennent après leur service ici sur la place de la République pour la nuit debout ?
En tout cas, je sais qu'il y en a qui vous suivent, qui écoutent, qui se disent que c'est possible de changer les choses aussi, que c'est possible de discuter, de renouer un lien avec la population qui nous manque terriblement. Et quand la population, comme je l'ai dit tout à l'heure, est coupée de sa police, la police qui lui appartient et qui est censée la protéger, c'est vraiment terrible parce que là, on peut justement assister à des débordements. Et je pense qu'il faut renouer ce lien au plus vite et au plus près et se rendre compte que dans la police, c'est des gens comme les autres également.
Une voix mutante, celle de Léna sur Radio Debout, pour une police mutante. On s'arrête sur deux points, Christian Chevandier. Alors, sur le plan technique, alors, être visible, parler en père de famille. On a beau être une femme policier, on parle du policier comme père de famille, c'est un thème récurrent. Visibilité et lisibilité, parce que souvent, ce qu'on reproche à la gestion des manifestations par les forces de l'ordre, c'est de ne pas être lisible. On attend que les casseurs soient séparés des manifestants. Il y en a même qui recommandent de distribuer des flyers aux manifestants, de dire « quand vous verrez deux fusées rouges, faut s'arrêter ». Enfin,
mais pourquoi pas, oui. Il est très difficile d'interpréter, même si on est sur place, ce qui se passe. Moi, je me souviens récemment lors d'une manifestation Place de la Nation, en tant que chercheur, je vais voir sur place ce qui se passe pour comprendre un petit peu. Et il y a eu un mouvement de la police que je n'ai pas compris, qui a été perçu comme une provocation par une bonne partie de la manifestation. C'était en effet à Place de la Nation un groupe de policiers en uniforme qui s'installe sur un petit talus. Ce que j'ai appris après, c'est qu'ils étaient en fait en train de porter secours à quelqu'un qui était lynché à ce moment-là. Et ça, personne ne s'en est aperçu. Donc c'est très difficile d'interpréter. C'est la raison pour laquelle je préfère être très prudent sur ce qui se passe actuellement.
Deuxième thème, police et population.
Alors, police et population, d'habitude, d'abord je voudrais dire qu'il ne faudrait pas restreindre le mouvement actuel qui est beaucoup plus riche au slogan « Tout le monde déteste la police », qui est même le niveau zéro de la conscience politique. Mais police et population, moi j'ai jamais compris pourquoi il faudrait que les gens, en fait que la population aime la police. Le travail de la police, c'est pas d'être aimé, c'est de faire respecter la loi.
Et de même, les hommes politiques, ils n'ont pas besoin d'être sympathiques. C'est pas ça qu'on leur demande, n'est-ce pas, Christian Chevandier ?
On vote pour eux quand même un petit peu.
Oui, mais ils n'ont pas nécessairement à être sympathiques. Ils ont à être dans la vérité de leur rôle. Mais enfin, finissons avec ces leçons de morale. Policier dans la ville, chez Folio, c'est l'un de vos derniers livres. L'émission a été réalisée par Stéphane Ronxin, Franck Oliver, Frédéric Martin, Elinka Negulesco, Clara Garson pour la préparation, à la technique Julien Dumont.